Olivier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
C'est l'histoire d'un homme qui écrit assis et pense debout. Il n'est pas qu'un auteur reconnu, il est aussi un réalisateur à succès. Iconoclaste dans le monde des lettres, il est causeur, débatteur, blagueur quelquefois. C'est une sorte de Zorro des temps modernes, la preuve, son talent, il le signe à la pointe de sa plume. Et c'est avec un empressement de collégiens que j'accueille en votre nom, sur l'antenne d'Europe 1, l'écrivain Yann Wax. Bonjour Yann.
Bonjour.
Et alors, tu vas rire, mais je suis intimidé d'entrée de jeu parce que c'est un peu déstabilisant pour moi, j'allais dire, ça commence très fort parce que c'est la première fois qu'un de mes invités choisit une de mes chansons. Ah. Et alors je me dis, mais comment je vais passer la perceuse là-dedans, moi? Et c'est pas, et pour moi, c'est pas n'importe quelle chanson, parce que c'est une chanson de moi que j'adore, je les aime pas toutes, mais celle-là, elle me plaît beaucoup en plus. Alors je suis, tu vois?
Je crois que vous savez que c'est pas de la flagornerie, puisque peut-être la seule chose que vous saviez de moi avant de m'inviter, c'était que ma chanson préférée française de tous les temps était Elle m'oublie. C'est la chanson parfaite, tant pis, je fais comme si c'était quelqu'un d'autre que vous qui m'interrogez.
Vous me l'avez suggéré, je me souviens, on avait fait une émission de télé, un plateau.
Je crois que c'était On n'est pas couché.
On n'est pas couché, voilà, j'avais la guitare sèche, 6 cordes, qui va bien. Et j'ai chanté, j'ai interprété avec plaisir Elle m'oublie, qui ferait voir les accords un jour.
Écoutez, pour moi c'est la chanson parfaite, c'est-à-dire que ça raconte vraiment une histoire et on ferme les yeux et on assiste au film, on voit l'histoire, on voit chaque endroit et... Je vous l'avais d'ailleurs dit une fois au téléphone, pour moi c'est les Misfits en Sologne, ou les Misfits en Beauce. Il y a à la fois le côté américain roots des films des années 40-50, et le côté profondément ancré dans la France profonde, et ça j'ai adoré. Le côté les étoiles, le nez dans les étoiles, et la bouteille de vin, vous voyez ce que je veux dire? Le cosmos et la Terre, le ciel et la Terre. C'est quelque chose de très profond, et ça raconte vraiment une rupture, et on lit... Au fur et à mesure de la chanson, on voit très bien que la jeune femme l'oublie vraiment de plus en plus. Ça, c'est quand même très fort. Et puis, il y a un truc qui m'a toujours impressionné, c'est cette répétition du « et ». Et moi, je vais finir, et la nuit va venir le « et ».
Ouais, ben moi, je m'en rends pas compte quand j'écris les chansons.
Le « et ».
Le seul truc que je sais, c'est quand je chante sur scène, je finis par une chanson de Christophe qui, là, on est en train de raconter un truc de scène. Les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et je finis Petite fille du soleil de Christophe, que j'adore aussi. Et elle finit par Petite fille du soleil, oublie-moi. Et j'enchaîne en disant aux gens, faites ce que vous voulez dans la vie, mais il y a un truc qu'il faut jamais dire à une femme, oublie-moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle le fait. Monsieur Johnny Hallyday, elle m'oublie.
Je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Ses cheveux blonds serrés dans un chignon mal fait. Elle pense à Dieu, c'est quoi? Le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant et elle voudra dîner. Elle m'oublie. Cette bouteille de vin, en regardant la table, en me tordant les mains. Et moi je vais passer la nuit dans le jardin, à compter les étoiles, ça ira mieux demain. demain, bien sûr, elle arrive à Paris. Elle retrouve les rues, ses parents, ses amis. Je lui donne 3 semaines pour tomber amoureuse. Et devant son miroir, elle est déjà heureuse. Elle m'oublie. Quelque part, le tracteur est cassé, ça fait toute une histoire. Il faudrait bien penser à soigner ce cheval. C'est la fin de l'été, elle m'oublie et j'ai mal.
Elle m'oublie, Johnny Hallyday, le choix de mon invité Yann Moix. Et maintenant, on va un peu oublier les paroles de la chanson, la musique aussi. On va rentrer dans le dur. On vous a souvent oublié, Yann.
Oh, évidemment. On est tous dans les oubliettes de quelqu'un. On vit tous dans les limbes et dans les douves d'une femme qui passait à autre chose. Tous. Un jour, je vais même vous faire un aveu. À l'époque où il n'y avait pas encore de portable, il y avait des doubles appels. On appelait ça des R2, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait vous mettre en double appel. J'ai appelé une femme qui a dit « Je te reprends tout de suite, je te mets en R2 ». C'était en 95. Eh bien, dans ce R2, mon cher Didier, je suis encore. Elle m'a jamais repris. J'y suis encore alors que je vous parle.
Ah oui, c'est ce qu'on appelait quand on était... Vous vous souvenez quand on était lycéen ou collégien ou pendant les vacances d'été, c'est ce qu'on appelait ramasser le râteau.
Oui, mais un râteau, il y a une petite différence parce que la fille se souvient un peu qu'elle vous a... Là, elle dit « je te reprends tout de suite au téléphone », elle se souvient même pas de m'avoir mis un râteau.
C'est génial. Dire,
elle le sait pas, elle.
Ça, c'est génial.
J'existais pas assez pour en prendre un, si vous voulez.
On m'en a fait des pendables, hein, des rendez-vous où la blondinette n'est pas venue, jamais venue. J'attendrais encore s'il n'y avait pas eu un flipper dans le café, mais... ça, le coup du R2, c'est la première fois que j'entends ça.
Elle a oublié, elle a même oublié qu'elle m'avait oublié, parce que la définition de l'oubli, c'est l'oubli au carré.
Ça me rappelle une chanson de, comment, d'Eddie Mitchell, j'ai oublié de l'oublier.
Ouais, c'est ça,
Hein, c'est ça.
Mais là, c'est donc lui, c'est parce qu'il veut se souvenir. C'est comme Sacha Guitry, je n'arrête plus de penser, ma chérie, que je pense encore à toi. Là, c'est l'inverse. La fille, elle oublie l'oubli. J'ai même pas imprimé une simple intention d'être repris au téléphone. C'est pas qu'elle a oublié de me rappeler. Elle a oublié de me reprendre au téléphone alors que j'avais appelé.
Ouais, c'est merveilleux. Et quand je pense que des pauvres pantins comme nous, on en écrit des chansons pour séduire ces filles-là et on en écrit des livres.
C'est
et
peut-être
on en
un
a
mauvais
écrit.
Calcul, Didier, mais c'est un très bon prétexte.
C'est vrai. On se retrouve dans quelques secondes avec mon invité dans Dis-moi ce que tu chantes, Yann Moix.
Europe 1, Dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Didier Barbelivien dans Dis-moi ce que tu chantes, deuxième choix de mon invité Yann Moix, on n'a jamais dû lui faire ça.
Non mais venant de vous, c'est comme s'il avait été fait pour la première fois.
J'adore quelquefois, comme Bernard Estardi disait toujours, Didier Barbelivien dîner ce soir, j'arrive à ton mois.
Ah oui, non mais vous, en sonorité, vous pouvez tout vous permettre, même les calembours.
Oui.
Ça sera toujours du Barbelivien, ça ne sera pas un calembour.
Non mais...
C'est fou parce que je m'aperçois, en fait, tout ce que vous dites est de Didier Barbelivien. On peut dire ça de personne à part vous. Toutes les phrases que vous prononcez sont de Didier Barbelivien, en fait.
Bah non, quand même, j'ai un invité, grâce
à
Dieu. Et j'adore ce choix parce que j'adore le titre. Et comme je dis toujours la vérité à nos auditeurs, en plus, je vais découvrir un truc, je ne la connaissais pas. C'est Charlie-Lee Couture, la balade du mois d'août 75. C'est précis et c'est votre choix. On l'écoute.
On a loué une maison, pas très loin d'Avignon, un vieux Polonais qui cherchait une mine d'or. Il faisait bonder l'aurore à regarder le ciel dans un fauteuil en toile.
et les poules imbéciles et le coq d'opéra. Quand le café était prêt, une fenêtre s'ouvrait. La mère bonne humeur commentait un de ses rêves. J'ai les pieds gelés mais je me souviens du mois d'août 75. Et tu tissais un gilet comme un sage d'artisan au maillot de bain du soir au matin. Tes frangins faisaient des sprints à vélo sur une route déserte. On allait chercher du fromage, du chèvre frais dans la ferme du haut. Sur les chaises du jardin, le père Barbuchot pensait à Picasso. Oh, la piscine était loin, mais ça faisait du bien. Quand on arrivait, quand on arrivait, on buvait du pastis comme si c'était de l'eau. Tu voulais que je reste, tu voulais que je t'enlève comme un premier amour. On jouait à la pétanque comme des amateurs. Mais y'a guère qu'un armateur pour 100 000 navigateurs, un seul compteur pour 100 000 baratineurs, des crampes dans le cou, des yeux qui me piquent, mais je me souviens. On écoutait le Mistral souffler sur la plaine, on faisait l'amour sur le toit en regardant les étoiles. Y'avait rien à gagner, les journées passaient, tout était simple. On croyait plus en rien d'autre qu'à l'instant. Et ça jouait de la musique sur tous les sentiments. Pas d'intrigue de village, pas d'ambition. Juste une manière de vivre, une manière d'être. Quelques grains oxydés sur de la paraffine et des souvenirs idiots, mais qui donnent un peu de lumière. Les jours de pluie.
Charles-Élie Couture, la balade du mois d'août 75, on entendrait presque tomber les gouttes de pluie à la fin de la chanson. Vous êtes sur Europe 1, on est dimanche après-midi. Il fait beau, non?
C'est l'anti-Elle m'oublie, cette chanson, pour moi. C'est-à-dire que dans Elle m'oublie, il regarde le ciel, ouais, parce qu'il est triste, il est seul, c'est la nuit. Là, c'est un groupe d'amis, ils sont absolument pas dans la gravité, ils sont dans la légèreté, dans l'instant. L'amateurisme l'emporte sur le professionnalisme. C'est artisanal, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, il n'y a que de l'instant présent. Ils sont vraiment dans le lâcher prise.
Ouais, c'est des moments de grâce dans une maison du sud de la France, voilà, dans ces années-là.
Au mois d'août et en 1975.
Exact.
Et donc là, il y a quelque chose à la fois de collectif, de très daté, puisqu'il le dit à la fin, il n'y a plus que des photos et il ne reste jamais rien de ce qui est vécu. Là, c'est pas « Elle m'oublie », c'est tout s'oublie. Il reste de vagues souvenirs, mais il ne reste jamais rien de ce qui est vécu. C'est la souffrance, le bonheur, tout ça, ça passe. Il y a des petits instants, et on a tous dans la tête des petits instants de vacances évaporés, qui sur le moment nous paraissaient naturels, normaux, et presque être des dus.
Des petits instants comme ça, c'est souvent ce qu'on appelle le bonheur. Hein.
Voilà, et c'est peut-être ce qu'on appelle
les uns à côté des autres.
On peut aller plus loin, Didier, monter d'un cran. C'est peut-être ça qu'on appelle l'éternité. C'est peut-être l'éternité, c'est peut-être pas un long désert infini de temps, avec du présent à ne savoir qu'en faire. C'est peut-être des petits éclats de présent, irrémédiablement perdus, mais dont il reste quelques étincelles. Et on les frotte de temps en temps en retrouvant des amis de l'époque.
C'est vrai. Ça me rappelle, ça n'a rien à voir. Vous connaissez une chanson de Serge Lama qui s'appelle « Le 15 juillet à 5 heures ».
Oui, bien sûr.
On est un peu dans ce truc du temps suspendu, du temps arrêté des gens qui échangent des choses
et puis, vous
insignifiantes.
Insignifiantes, c'est ça, c'est sur l'insignifiance. Et puis, on peut retourner dans le sud comme on veut. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut retourner aussi en 1975 comme on veut.
Ouais.
Il suffit de s'en souvenir.
C'est ça.
On peut passer des vacances en 1975.
Non, c'est la force des créateurs en général. C'est, enfin, on aime bien ramener, on aime bien se faire un peu le remember, on aime bien. Bon. Enfin, moi, je le fais naturellement dans
toute
la vie déjà.
Proust. Oui, mais moi, je vis enfermé. Il y a une partie de mon être qui vit totalement enfermée dans les années 70, 80, dans l'enfance et l'adolescence. Je n'en ai pas honte. Comme une mouche dans un bocal. Je ne veux même pas en sortir. Non, mais je veux dire,
il
m'arrive de regarder
ça.
Que des films de 1972 pendant 6 mois, par ouais. exemple. Parce que c'est l'année 1973 n'est pas encore advenue.
Moi, j'ai deux petites filles de 10 ans, c'est ce qu'elles appellent, dès qu'elles me voient regarder un noir et blanc de Gabin ou un vieux film de Delon ou de Belmondo ou de cette époque-là, elles ont intitulé ça « À l'époque ». Maman, papa, regarde un « À l'époque ».
Oui, bah, je peux vous dire...
C'est pas un film.
Didier, hier, j'ai regardé, hier après-midi, à 15h, j'ai regardé le train sifflera trois fois.
Ah ouais.
Je peux vous dire que pour moi, ça a eu lieu hier.
Ouais.
L'attaque a eu lieu hier.
J'ai ça avec l'homme qui tuait Liberty Valance, moi. Mais attention, j'en ai des récurrents. Mais pas que du noir et blanc.
Non, mais les films se déroulent au moment où on les regarde.
L'affaire Thomas Crown, je l'ai vu combien de fois? Je sais pas, 25, 30.
Mais parce qu'elle est au présent quand on le regarde, le film se déroule au moment où on le regarde.
Ouais, je sais pas, puis... Il y a un truc que j'aime bien dans le souvenir et tout ça, c'est retrouver quand même des choses vraies. C'est-à-dire, il y a des moments, j'ai besoin de revoir des 403 et des 404. J'ai besoin de voir passer une Ford Mustang dans le paysage.
Mais les souvenirs ne trichent pas, en fait. Les souvenirs ne trichent pas. On peut modifier des choses par le souvenir, mais c'est pour leur donner plus de vérité, même si c'est pour les exagérer ou les émousser. Il y a quelque chose dans le souvenir qui ne ment pas, et qui ne triche pas.
Et vous étiez où? Vous vous souvenez? Vous avez des vrais souvenirs à vous de ces années, de fin des années 70?
Ah oui, j'ai des souvenirs, comme dans ma famille c'était l'enfer, j'ai des souvenirs uniquement scolaires. Ma mémoire a préféré collecter des souvenirs scolaires, donc j'ai que des souvenirs extraordinaires à l'école.
Voilà.
Les noms des mecs qui étaient avec ma
voilà,
dans la classe.
Ça, j'aime bien me souvenir de ça aussi. Et vous avez le truc des photos de classe?
De classe, oui. Je les ai essentiellement dans ma tête, en fait. Je vois très bien qui est avec moi en classe. Je retrouve des noms de temps en temps. Et quand on retrouve un nom auquel on n'avait pas pensé depuis 40 ans, il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comme si on faisait apparaître un pan nouveau de notre vie qui était englouti.
Et j'ai une question, je me doute à peu près de la réponse. Est-ce qu'on écrit aussi pour faire revivre ces moments-là?
On écrit
ou
que
surtout
pas pour les faire revivre. On écrit pour retourner dedans, pour retourner y vivre.
Ouais.
pour retourner y vivre.
Oui, tellement c'était bon.
Ah oui.
Parce que là, il dit des trucs dans la chanson que j'ai découvert. Hein. Je le redis. Ce que j'aime, c'est quand j'ai le texte comme ça que je la connais pas, je cherche pas à la connaître. J'aurais pu l'écouter
avant
de recevoir.
C'est bien, c'est intéressant comme expérience.
Voilà, je me laisse porter. La musique est tellement originale par rapport au texte qui est écrit, qui est d'un classicisme connu et reconnu. Et il dit à un moment, ça a l'air bête de dire ça, mais c'est énorme. Il n'y avait rien à gagner. Les journées passaient.
Voilà.
Tout était simple.
Voilà. C'est extraordinaire.
C'est l'anti aujourd'hui.
L'anti aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs, ils comptent les minutes, ils zappent.
Vous pouvez prenez le contraire de chaque truc. Regardez, prenez le contraire de chaque morceau que vous venez de dire.
Ouais.
Le temps aujourd'hui est une obsession, gagner du temps, économiser du temps, grappiller du temps.
Tout était simple.
Là, tout est vraiment très compliqué.
C'est l'enfer. On ne croyait plus en rien d'autre qu'à l'instant.
C'est la seule chose à laquelle on ne croit plus aujourd'hui, c'est l'instant. On n'y pense plus, on ne pense pas à l'instant. D'ailleurs, l'ennui a disparu. Chacun se met sur sa tablette ou sur son téléphone, mais les gens ne s'ennuient plus. Ils ne supportent pas ça.
Non.
C'est devenu scandaleux de s'ennuyer.
Et ça jouait de la musique sur tous les sentiments.
Avec le ça. Nous, ça.
Ouais. Ça jouait de la musique.
C'est-à-dire qu'il ne dit pas « je jouais de la musique » ou « il jouait de la musique », c'était un tout, quoi.
Et quand on sort d'une chanson comme ça, comment on voit l'avenir après avoir écouté ça? Comment aujourd'hui, vous le ressentez?
Louis-Ferdinand Céline a une phrase que j'adore, qui résume tout. « L'avenir, virgule, c'est pas une plaisanterie. » Voilà. On voit l'avenir comme le contraire d'une plaisanterie.
Ouais.
Comme quelque chose, finalement, de passionnant intellectuellement. Mais qui, humainement, fait extrêmement peur. Alors, l'avenir a toujours fait peur. Mais attention, l'avenir en 1975 faisait moins peur que l'avenir en 2021.
Mais j'allais vous dire, franchement, ou alors on était des débiles, moi j'avais 21 ans en 1975, j'avais peur de rien. Franchement, Je me souviens pas d'avoir eu peur. Je me souviens d'avoir été insécure, de par ma vie, de par ma situation. Mes peurs, non.
Non,
je me disais, si ça marche pas la chanson, je me dis, bon, je ferai garçon de café.
Non, parce que c'est l'époque de la guerre froide, on savait de qui avoir peur. C'est-à-dire, grosso modo, on était programmé pour avoir peur des Russes, en gros.
En gros,
géopolitiquement.
Ouais, c'est très vrai.
Aujourd'hui, les ennemis ne sont plus vraiment... on ne peut pas les définir de manière aussi claire. On voit à peu près d'où ça vient, mais il y en a des nouveaux toutes les semaines. Et donc, il n'y a pas d'ennemis génériques. On n'est pas préfiguré pour un ennemi donné. C'est des ennemis changeants et fluctuants.
C'est notre voisin, souvent.
Souvent.
C'est vrai.
Non,
hein?
Souvent.
C'est...
Ouais, non, mais c'est très difficile de savoir aujourd'hui d'où vient le danger. Et on a plus peur de la peur que peur tout court, d'une certaine manière.
Je me souviens d'une phrase, d'une chanson d'Yves Simon, J'ai rêvé New York, où il disait « Le pouvoir, la force, c'est d'être au coin de la 5e et de la 23e et de n'attendre personne. » Tu te souviens de cette phrase?
Ah oui, bien sûr.
Ne quittez pas, ne partez pas, soit vous êtes chez vous, soit vous êtes dans la voiture. Dans la voiture, je vous déconseille de sortir en marche. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Et on retrouve mon invité, son troisième choix, Julien Baer, Concert amer. Et c'est comme tout à l'heure pour Charles-Élie Couture, je ne la connais pas. Et ça ne veut pas dire qu'elle est inintéressante, bien au contraire. On l'écoute immédiatement, Julien Baer, Concert amer.
On rêvait tu es sous les pins parasols. On rêvait de foule et de gens qui crient. On rêvait tu es là pour mille personnes. On s'est retrouvé là devant personne. Un concert amer, dur. Si on parlait le double, je suis même pas sûr de revenir jouer là. Je suis pas sûr. On rêvait Nice, un beau théâtre de verdure pure. On s'est retrouvé entre quatre sales murs. Je voulais revoir juste une amie. Mais j'ai retrouvé que ses amis. Un concert amer, un concert dur. Double, j'suis même pas sûr de revenir jouer, non, j'suis pas sûr. Y'a rien qui colle, même pas les affiches. Sur le nombre d'entrées, on ment, on triche. Fais-moi sortir d'ici. Rien à faire ici. Fais-moi sortir de là. Je veux pas rester au concert amer, au concert dur. Y'a pas de couleur qui brille sur l'affiche. Maintenant je suis sûr, on sera jamais riche. Et le train ailleurs, il part à quelle heure? Fais-moi sortir de là. Je veux pas rester amer, dur. La locale qui tue et l'Afghan. On pensait décoller tout le temps. Y'a que des camères souvent on reste sur terre. Il pleut tout le temps. Si me donnait le double, je suis même pas sûr.
Mesdames, messieurs, c'était un blues d'aujourd'hui. Julien Bert, concert amer. Ça fait mal, hein, y a des moments ça.
Ah, j'imagine que tous les musiciens du monde, y compris les Rolling Stones, je le sais d'ailleurs qu'ils ont vécu ça. C'est-à-dire, ils rêvent de remplir une salle sous les pins, l'été, etc. Puis ils se retrouvent dans une boîte de conserve avec des gens qui sont là sans savoir pourquoi. Et avec la phrase géniale, je voulais voir juste une amie, je n'ai vu que ses amis.
Ouais.
C'est le bide monumental, c'est le ratage complet. Et c'est la réalité qui reprend ses droits sur le rêve. C'est une très belle chanson et je crois que Julien Bert est vraiment un des chanteurs et des compositeurs les plus doués de sa génération. Il a fait que 4 albums depuis 1997, ou 16 même, mais je considère que c'est un très très grand.
Ça c'est un extrait du 4e d'ailleurs.
Oui, du dernier en
date. Le La, oui. Il s'appelle.
Le La.
Si on me donnait le double, je suis même pas sûr de revenir jouer. Ça c'est le fond du désespoir.
Le fond du désespoir.
Ça, ouais.
Qui n'est pas fait pour les concerts.
Non, parce que... Même il y va pas pour l'argent, la preuve.
Il est trop sensible. Il voit que si le métier de musicien consiste à faire des salles pourries tous les soirs dans des villes sans charme, il se demande pourquoi il est venu sur Terre.
Je comprends. Je comprends. J'en ai vu des...
J'imagine.
Des gars à galère, comme ça. On appelle ça...
Les gars à galère.
Oui, les gars à galère. Et c'est vrai que, en plus, c'est... On est ado en général quand on commence à jouer comme ça sur des petites scènes. Et donc la baigne qu'on se prend, elle est deux fois plus forte. Vous avez ressenti ça dans la vie? Ça vous est arrivé, ça? L'échec?
Indirectement, parce que j'ai fait un film qui s'appelait Cinéman qui n'a pas du tout marché.
Alors, après Podium?
Oui, après Podium. Alors, pas du tout marché. Il a quand même fait 500 000 entrées. Donc, c'est pas non plus... j'en ai pas fait 8 000, mais c'est vrai que ça n'a pas marché. Et donc... La baigne, elle est abstraite au cinéma parce que on dit simplement que les entrées n'ont pas. Alors j'ai été la prendre en direct. Je suis allé dans des salles par masochisme sans doute, mais je suis allé en salle pour voir un peu.
Pourquoi il y avait personne?
Alors quand j'y suis allé, il y avait vraiment pas grand monde et le peu de monde qu'il y avait, je les ai vus physiquement sortir de la salle. Et donc les gens savaient pas que j'étais là.
Eh ouais.
Mais j'ai vécu l'équivalent d'un musicien dont les gens se barrent pendant son concert.
Moi j'ai connu ça quand. En 1980, mais j'ai eu de la chance parce que y a un truc qui est formidable dans la musique, c'est que quand c'est un bide, on risque rien, on l'entend jamais. Donc
ça c'est vrai, c'est vrai.
Ça passe
sur scène. Sur scène.
Mais ouais, sur scène, non, ça m'est pas arrivé ça, mais de cette manière-là. Mais non, il y a un truc que j'ai connu qui est exceptionnel. La première chanson que j'ai sortie qui a eu du succès, c'était une chanson qui s'appelait Elle. Et sur la pochette, il n'y avait pas mon visage. Il y avait juste écrit « Elle au rouge à lèvres, Didier Barbolivien ». Donc moi, je voyais la tête des gens dans les cafés.
Je connais cette chanson, je m'empresse de le dire.
Voilà, qui mettaient ça dans le jukebox. Ou dans les nightclubs, il m'est même arrivé d'inviter une fille à danser sur ma chanson.
Ah, ça fait quoi, ça?
Mais c'est exceptionnel.
Se prendre un râteau sur sa propre chanson.
C'est merveilleux. Non, c'est merveilleux parce que...
C'est bizarre. Non,
parce que la fille, justement, cette jeune fille, elle me disait oh, « qu'est-ce qu'il chante bien ?» Bon, je dis « non, pas normal. » Et pendant le slow, pendant qu'on danse...
C'est génial. Et quand elle a su que c'était vous?
Ah, j'ai pas dit.
Jamais?
Ah,
elle a jamais su.
Ah non, jamais. Non. Par rapport toujours à ce sujet, est-ce que vous pensez... Maintenant, avec le temps, les années passées, vos rêves d'adolescence, ils sont arrivés à bon port?
Mieux que ça, mes rêves d'enfance. Vous savez, je n'ai eu qu'un seul rêve dans ma vie, c'est de pouvoir écrire des livres et les publier. J'ai jamais eu d'autres rêves que ça. Alors ça peut paraître un rêve très prétentieux pour certains, mais trop modeste pour d'autres. J'aurais peut-être rêvé d'être spationaute, peut-être que je me serais donné les moyens de l'être, mais... Je ne me suis donné les moyens que de devenir écrivain. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà, pour moi, c'est mon rêve. Donc, en fait, si vous voulez, on peut tout m'enlever. Du moment que je puisse continuer à écrire et à publier, je serai jamais malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je serai jamais malheureux. Au sens où.
Si je vois ça, je connais très bien ce sentiment.
Je serai jamais désespéré, pardon.
Je comprends.
J'ai pas dit malheureux. Malheureux, ça n'a rien à voir. Je serai jamais désespéré du moment que je puisse continuer à écrire et à publier. C'est ce que je demandais à l'existence. Et c'est ce que l'existence m'a donné après que je lui ai réclamé de manière forcenée. Parce que je l'ai obtenu au forceps. Hein.
Je me doute. Non, non, mais je connais bien ce sentiment. Tout à l'heure, on a parlé du film. Il y a un truc, je me suis toujours demandé, mais... Et là, je ne l'avais même pas préparé pour l'interview, je ne pensais pas vous le demander, mais ça m'est revenu. Pourquoi Claude François ?
D'abord, j'ai fait
Pourquoi
un film
Podium
sur...
Alors, parce Podium, que... c'était le titre de son magazine.
Pour une raison très simple, là, il faut être très honnête, c'est pas pour Claude François en lui-même, c'est simplement parce que les sosies les plus fréquents en France sont de deux sortes, Johnny Hallyday et Claude François. Et j'ai trouvé qu'en termes de comédie, si on appuyait sur les défauts de Claude François, en appuyant beaucoup sur ses défauts, c'est-à-dire la mégalomanie, la radinerie, le côté tyrannique...
La radinerie, il n'était pas radin. J'ai bien connu Claude. Il était, comment dire... Il était fantasque. Il était capable de vous inonder de cadeaux et puis de refuser un truc anodin.
Je voulais dire le côté tyrannique. Alors.
Tyrannique, voilà. Ah oui.
Le côté tyrannique m'a beaucoup inspiré en termes de comédie. Mais je sais aussi par ses enfants que Claude François avait quand même beaucoup plus d'humour que ce qu'on imagine. Et je pense qu'il aurait énormément ri en regardant Podium. Je pense que ça l'aurait sans doute amusé, enfin j'espère.
Oui. Non, c'est là je confirme, il avait quand même un sentiment du second degré. D'ailleurs, je le dis dans un livre qui s'appelle « Pleure pas de nostalgie ». Quand je voyais Claude, j'avais l'impression qu'il se regardait être Claude François.
Oui, c'est ça,
un peu comme De Funès dans les films. Ça n'existe pas, quelqu'un comme De Funès. Faut un type génial qui s'appelle Louis De Funès pour jouer des personnages pareils.
Sauf que lui, il le faisait dans la vie, Claude François, il le faisait pas à l'écran.
Oui, non, il était... Mais j'avais l'impression, quand il était avec moi, des collaborateurs, et qu'il était, comme vous dites, souvent tyrannique ou méprisant, ça lui arrivait aussi. Il y avait un côté jeu. Par exemple, c'est un homme qui n'avait aucune rancune. Strictement aucune rancune. Je me souviens quand son secrétaire, une année, lui a volé sa voiture. Le type est parti avec la recette du concert, la voiture de Claude et une gonzesse. Il a passé la frontière. Il est passé en Suisse. Il est resté 10 jours dans les grands hôtels à faire la nouba. Au début, Claude voulait le tuer le premier jour. Deuxième jour, il disait nanana. Le cinquième jour, il était fou d'admiration. Il se demandait comment ce mec-là avait osé lui faire ça. Mais enfin bref, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai invité, en dehors du fait qu'on s'est croisés, que je peux vous trouver du talent, ça du talent vous en avez, et de la sympathie et...
Je merci, parce que j'aime la chanson française peut-être, dans la variété.
Oui, c'est sûr, je suis sensible aux gens qui aiment les chansons, sinon vous ne viendriez pas dans « Dis-moi ce que tu chantes », sous-entendu « Je te dirai qui tu es ». Non, c'est que j'ai lu, j'ai lu dans votre dernier livre « Reims, vers la fin ». Une phrase, vous dites, en bilan, je faisais mes débuts dans le destin. Et moi, quand je lis ça, je me dis, faut absolument que j'invite ce monsieur.
Dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien est sur Europe 1.
On se refait un petit flashback dans les années 70 en compagnie de mon invité Yann Moix, Les bateaux du métro, une chanson d'Yves Sim.
Depuis les balcons de la ville, on voit des grues se balancer, des fumées des vieux magazines qui traînent dans les rues gelées, des voitures automobiles. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. Depuis les balcons de la ville, on entend le bruit des sirènes, des chansons vieilles de la mer qui sortent des caves de la Seine, des chansons de matelots. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. balcons de la ville, on voit des amours se chercher. Des rendez-vous près des statues, des fleurs qu'on jette dans les paniers de la gare de Montparnasse. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro.
Yves Simon, les bateaux du métro. Qu'est-ce que j'ai aimé, mais qu'est-ce que j'aime encore, Yves Simon.
Ouais, moi aussi. Un jour, il s'est fâché contre moi une fois parce que moi, personnellement, je le mets au-dessus de Gainsbourg. J'ai le droit.
Ah, on a tous les
il
droits.
Il était furieux.
C'est dis-moi ce que tu chantes.
Mais furieux.
On peut tout dire, on peut tout écouter.
Je l'ai vu furieux de ça. Furieux. C'est comme si on avait dit à Louis de Funès qu'on mettait Buster Keaton en dessous de lui. Il aurait été furieux. C'est pareil. J'aime bien qu'il soit furieux. Ça prouve sa modestie, mais je le mets très très haut, Yves Simon. Comme compositeur, comme joueur de guitare, comme parolier.
En
comme
tout cas, où je vous suis à fond la caisse, c'est que ça, c'est le premier titre de l'album studio qui était paru en 73. Ça a été un choc, hein, au Pays des Merveilles de Juliette.
Ah, extraordinaire.
Non, parce qu'il y avait les Gauloises Bleues dessus, il y avait Rue de la Huchette, enfin, il y avait plein
de tubes.
Plein de tubes. Et puis surtout, un parfum de à la fois de Paris, un type qui découvrait Paris, qui découvrait la magie des mots, la façon de raconter, lui qui venait de province, ça m'avait fait rire de lire ça dans sa bio.
Il y a un point commun avec Julien Bert, c'est que les deux détestent la scène, c'est-à-dire qu'ils font très 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 peu de concerts. Peut-être qu'Yves Simon a connu beaucoup de concerts amers pour arrêter de faire la scène, parce qu'il n'est jamais 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 sur scène, c'est rarissime.
En tout cas, de mémoire de spectateur, je me souviens pas d'avoir vu Yves Simon.
Il a fait l'Olympia il y a pas longtemps, il l'a fait il y a 50 ans, mais et au Japon, il a fait des tournées au Japon, mais il aime pas la scène.
Puis, je sais pas, elle me plaît cette image-là, les bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. C'est quand je pense qu'aujourd'hui, je vais au milieu des vélos et des trottinettes, ça fait un peu moins rêver quand
non,
même.
Ça c'est sûr, c'est sûr. Et puis il y a quand même un côté artisanal chez lui. C'est quand même bien fait, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Bel ouvrage, non, mais
ouais, c'est vrai. Mais c'était attention,
raffiné, c'est sophistiqué.
C'était quand même, j'allais dire la marque de fabrique pour parler d'un truc d'artisan et c'est juste des auteurs-compositeurs de ces années-là.
Le Forestier, notamment.
Moustaki était comme ça. Etc. D'écouter les albums Karadec, je me souviens, c'était des albums ciselés. Il y avait David McNeil que j'aimais à la folie.
Les chansons en général sont courtes.
Ouais.
C'est très beau.
Michel Zaka.
Ah oui, Michel Zaka, ouais.
C'est des gens qui sont passés, qu'on a oubliés, pas forcément d'ailleurs.
Il y avait des studios rue Championnet, c'était cette époque-là.
Hervé Christiani, rue Championnet, c'était le studio de Bernard Estardi.
Exact.
Et ce qui était génial, c'est que ces auteurs-compositeurs, quand même, sophistiqués, on va dire, hein.
Parce que. Ah, sophistiqués, c'est
sophistiqués,
bon.
C'était. Une écriture, je repense par exemple à Moustaki dans La Carte du Tendre. C'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire, comment il joue avec le sentiment amoureux et tout ça. Eh bien, ils étaient quand même les contemporains en radio de Mike Brandt, de C. Jérôme, de Frédéric François.
Ouais, ouais,
et tout ça,
écrasait tout. Ouais.
Et tout ça, ça cohabitait parfaitement.
Exactement.
C'est-à-dire que Mike Brandt vendait des millions de 45 tours. Et Maxime Le Forestier, il vendait un million et plus d'albums de son premier album.
C'est vrai. Et il y en a que je situe au barycentre de ces deux-là, au milieu de ces deux-là, qui sont à la fois des gens qui écrasaient tout et qui avaient un côté sophistiqué. Michel Delpech, par exemple.
Ah oui.
Je le mets au milieu de ça.
C'est très juste.
Il est dans les deux catégories.
Très juste. Il joue dans les deux catégories. Exactement.
Par exemple, il y en a sans doute d'autres.
Non, mais il avait des chansons. Ouais, Michel Delpech faisait partie de ça, c'est vrai que, retrouver des garçons, grâce à vous, hein, grâce à vous mes invités, de retrouver cette ambiance d'auteur-compositeur, qu'on avait dans les années 70. Là, ça fait vieux remember, là, quand je parle comme ça. Je sais qu'il y a des mecs qui se disent, ah non, mais lui...
Vous vous rendez compte l'importance que c'est, on va dire, de manière pas du tout péjorative, ces petites chansons, je dis petit par le format, par la modestie de ces chansons qui n'ont jamais voulu être des... qui n'ont jamais prétendu être autre chose, qui sont grandes pour moi, mais qui sont devenues grandes par le temps. Vous vous rendez compte l'importance que ces chansons ont eu dans la vie des gens ?
Je pense, oui.
Vous vous rendez compte des moments de la vie que ça rappelle, des moments de gaieté, de tristesse. Ça fait quand même 50 ans, Elle m'oublie, on l'écoute depuis 1978. Elle nous rappellera tout le temps la première fois où on l'a entendue. C'est-à-dire, ces chansons-là nous ont accompagnés et ce qu'on recherche à travers elles, c'est l'état dans lequel on était il y a 40 ans. Donc, c'est des chansons qui nous ont transpercés de toutes parts pendant 40 ans. Et donc, on peut les écouter à l'infini. Vous vous rendez compte ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut refaire de zéro comme ça ? Non, il n'y a que les chansons qu'on peut réentendre
ouais, c'est
de
vrai
zéro.
Que...
Un livre, on ne le revoit pas de zéro. Les films, on ne les revoit pas de zéro.
Non, mais la chanson ramène à toujours
temps,
à une émotion, c'est
temps,
vrai.
C'est à une
vrai.
Émotion
c'est vrai.
Qu'on veut revivre.
Et vous voyez, c'est pas, je veux dire, c'est pas faire le prof et le vieux gribou que de dire ça, mais... Je dirais presque à la génération montante, là, s'il y a des garçons, des filles qui écrivent dans leur chambre sur une guitare, six cordes nylon, comme on a tous commencé, il faut réécouter les chansons d'Yves Simon, d'Alain Souchon.
Je vais vous dire un truc qui va vous rassurer, Didier. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, notamment dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché pendant 3 ans, tous les jeunes que j'ai rencontrés qui avaient beaucoup de talent, c'était pas un hasard, ce sont des jeunes qui ont été s'abreuver à ces sources-là.
Eh bien, tant mieux.
Les autres se photocopient tous les uns les autres. Mais ça, je l'ai vu.
De la même façon que ma génération s'accrochait à Brassens, à Ferré, à Ferrat, à Nougaro, à Gainsbourg, à Becot, à Aznavour, il y a eu dans les années 70 des gens comme ça qui servent de...
Écoutez, moi j'ai confiance dans l'avenir à la jeunesse depuis qu'il y a 15 ans, je vais à la FNAC, et j'ai vu un gamin de 12-13 ans demander où était B.B. King, où était rangé B.B. King à
génial.
La FNAC. Et le vendeur de la FNAC a dit à son collègue, putain, t'as vu le gosse ?
Ouais.
Il a demandé des B.B. King.
Il veut écouter,
c'était extraordinaire ce moment-là. Ça m'a rassuré.
C'est vrai. Je ressens ça. Hein.
C'était en 2005, qu'un gamin de 12 ans en 2005.
Rassure.
Non mais ça rassure.
Mais oui, je suis d'accord, moi. On va retrouver un poids lourd des années 70 et... Ah ouais, celui-là, il est formidable. Il s'appelle Laurent Voulzy. Et quand je dis poids lourd, c'est parce que quand c'est sorti ça, en 1977, la première fois que c'est passé à la radio, c'était sur l'antenne d'Europe 1. Je peux pas l'oublier parce que j'étais dans mon bureau d'édition rue de la Boétie. J'écoutais la radio en même temps que je cherchais à faire des chansons. Dès que j'avais un petit trou, hop, j'écoutais Europe 1. Et... J'entends ça, non mais je tombe foudroyé. J'appelle une copine programmatrice ici, et je connaissais pas Laurent Voulzy, moi. J'ai dit, passe-moi le numéro de Laurent Voulzy, faut que je lui laisse un message. Alors, on n'avait pas les portables à l'époque,
non, hein,
donc elle me file le téléphone. Et j'entends, j'appelle, ça décroche, et j'entends une voix très douce, comme est Laurent. Allô ? Et il était 2h30 de l'après-midi, je le réveillais. Ça, c'est des mecs qui se couchaient à 6h, 7h ouais. du matin, ou 8h, ils restaient en studio toute la nuit. C'était pour lui dire, mais vraiment, le choc que j'avais eu en entendant ce truc-là. Laurent Voulzy, Recollection.
Dans le cœur, une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now.
Come on, baby, do the locomotion.
I know you're gonna like it if you give it a chance now.
Come on, baby, do the locomotion.
On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule.
Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's life and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Yeah, 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 yeah. À quoi ça va me servir d'aller me faire couper les tifs? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. J'lui ai dit si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et j'me suis fait virer.
Et j'me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around.
Get around.
Dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait.
Et Saint-Malo dormait.
Et les radios chantaient.
Et les radios chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy. Ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient.
Et les loulous roulaient.
Et les cailloux chantaient.
Et les cailloux chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
On a tout dit, tout écrit sur ce chef-d'œuvre. Je rappelle à nos auditeurs Laurent Voulzy pour la musique, Alain Souchon pour ce texte. Yann.
Non mais je dois vous dire quelque chose sur ce chef-d'œuvre absolu et monumental. C'est quand même que, mettez-vous à la place d'un gamin de 7 ans. J'avais 7 ans quand c'est, 9 ans quand c'est sorti.
Ouais, moi ça.
Non mais,
aujourd'hui on est excité.
Non mais attendez, c'est pas ça. C'est que on a 15 ans d'écart. Vous, quand vous avez entendu ça pour la première fois, vous êtes dit c'est incroyable, il replace tous les tubes que j'aimais.
Ouais.
Mais moi, mon cher Didier,
découvert.
C'est la première fois que j'entendais ces tubes-là.
Ben,
donc
comprends.
Moi, je pensais que tout était de lui.
Bien
et je pensais
sûr.
Que tous les petits. Je dis mais ce mec, mais comment est-ce qu'un type, il devrait, c'est chaque petite parenthèse, il devrait la sortir indépendamment, ça ferait un tube. Je suis juste un peu embêté dans les 5 titres que vous m'avez demandé, mon cher Didier, c'est que mon idole absolue, celui que j'appelle Dieu, n'y figure pas parce que je ne peux pas choisir. Donc c'est en fait, je suis un très grand fan de Michel Polnareff.
Ouais, ben il faudra revenir. Ben,
je reviendrai pour un spécial Polnareff.
Ah ben on le fera tous les deux.
Parce que c'est quand même quelqu'un qui je rends hommage dès que je peux. C'est quand même. On est dans
moi,
une dimension.
Quand je me posais la question si j'étais invité, je me disais je ne peux pas ne pas mettre une chanson de Michel. Mais laquelle je mettrais? Am Kaline, Ça n'arrive qu'aux autres,
voilà,
Mes regrets. Enfin, je sais pas, Le roi des fourmis.
Là, le nombre de chefs-d'œuvre est quand même assez exorbitant aussi.
Peut-être pour la. Je vais vous proposer un truc que, comment dire, que je viens d'avoir l'idée maintenant. C'est-à-dire, c'est une idée de cinglé. Pour la dernière émission de Dis-moi ce que tu chantes, je te dirai qui tu es, vous revenez, on fait un match de chansons de Polnareff.
Ah, génial.
On entendra
Génial. Énormément
de musique. On va jouer au ping-pong avec les chansons de
Polnareff. Ouais.
Pas mal, ça.
Ah, génial.
Hein?
Génial.
Bon, le moment est presque venu de se dire au revoir, mais juste une question avant de partir. Vous écrivez avec ou sans musique quand vous...
Je suis incapable d'écrire sans musique.
D'accord.
J'ai toujours écrit tout en musique. et je dois même dire souvent en écoutant de la chanson française. Et plus particulièrement, la chanson française des années 70. Quand je dis chanson, c'est ce qu'on appelle parfois condescendance variété, mais pour moi, la variété française est un genre indissociable de la vie de tous les jours. Or, le plus grand des philosophes, qui pour moi est Martin Heidegger, n'a eu qu'un souci dans sa vie, c'est de parler de la vie de tous les jours. Il n'y a que le quotidien qui nous intéresse. Il n'y a que le quotidien, de vrai. La chanson de Charlie Couture tout à l'heure, c'est l'instant présent. Et la variété française est pour moi ce qui m'a le plus aidé dans ma vie à traverser le moment présent. C'est comme un train que je prends, un métro de quelques minutes, mais ça me permet d'aller à la station de mon enfance ou de mon adolescence et que les autres musiques que j'aime aussi, j'adore le jazz, j'adore le blues, j'adore la musique classique, mais la variété française, c'est un métro que je prends pour aller à la station de mon passé que je préfère mais le jour où j'écoute telle ou telle chanson.
Je signe avec vous des deux mains et je peux vous faire une confidence puisque le moment est venu de se quitter. Quand j'ai connu votre choix de chanson,
ah.
Donc j'ai tout feuilleté, j'ai tout regardé. Je me suis dit finalement, hein, Yann Moix, de temps en temps, il sort les dents. Mais c'est un immense sentimental.
Je suis voilà. Le mec, un des mecs les plus gentils que j'ai jamais rencontré de ma vie. Mais les gens ne le savent
et
pas.
Alors, et alors, vous ne savez même pas avec quoi je vais finir.
Non.
J'adore que vous disiez ça parce que la dernière phrase de votre roman, le dernier, Reims, elle dit ça. J'ai envie de me serrer dans mes bras. Eh ben, j'ai envie de vous dire, moi en tout cas, et les auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai qu'on a envie de vous serrer dans nos bras.
Je suis très ému de cet aveu.
Merci Yann Moix.
Merci Didier.
Dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien sur Europe 1.